Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap de l'actu pop culture de ces dernières semaines. En 10-15 minutes, on vous fait un résumé complet des news les plus importantes du cinéma, des séries et des jeux vidéo. Cette section actu est à retrouver dans notre format long Pop News, dans lequel on revient plus en détail sur le box-office, les prochaines sorties ou encore les rumeurs de casting. On vous invite à aller l'écouter juste après. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser étoiles et commentaires, ça nous aide beaucoup. Bon épisode à tous.
On commence tout de suite, si tu veux bien, avec... Une news qui nous rend quand même très triste. Un décès.
Exactement, et pas n'importe quel décès, le décès d'Akira Toriyama, le célèbre mangaka, évidemment connu pour la série Dragon Ball, qui est décédé le 1er mars dernier à l'âge de 68 ans, des suites d'un hématome sous-dural. C'est un communiqué de la maison d'édition de Toriyama qu'il a indiqué au Japon. Pour la petite histoire, Toriyama est né à Nagoya en 1955, c'était évidemment donc l'auteur de Dragon Ball, comme je l'ai dit, aussi de Dr. Slump et d'autres œuvres. Il a aussi participé à des jeux vidéo. Il a été l'auteur le plus influent sûrement des dernières années au Japon. Il a connu un succès mondial donc avec Dragon Ball avec plus de 300 millions d'exemplaires vendus. Ça a été vraiment la série qui a permis de populariser le manga dans le monde, évidemment encore plus en Europe dès la fin des années 80, milieu des années 80. C'est vraiment une nouvelle super triste. Ça a été une onde de choc au Japon et dans le monde entier. Il y a eu énormément d'hommages de part et d'autre, que ce soit des fans mais aussi des mangaka qui suivent l'œuvre du maître depuis des années, et des mangaka qui ont été inspirés par Toriyama pour devenir eux-mêmes de grands mangaka. On pense évidemment à Eiichiro Oda de One Piece, qui a fait un super communiqué pour saluer la mémoire de Toriyama. Il y a évidemment l'auteur de Naruto, celui de Bleach, etc., qui se sont joints à lui. Et c'est une vraie nouvelle qui fait mal un petit peu à l'enfance, entre guillemets. C'est vrai que ça tue quelque chose, et l'œuvre de Toriyama sera encore plus forte, je pense, aujourd'hui, parce qu'elle symbolise quelque chose de très important pour de nombreux jeunes et jeunes adultes des années qui ont grandi dans les années 80-90. Toi, je sais pas ce que ça te fait. Je sais que t'es pas un grand lecteur de Dragon Ball, mais en tout cas, moi, ça m'a touché.
Moi, ça me touche beaucoup. Alors, moi, je suis familier évidemment avec l'œuvre visuelle de Toriyama, j'ai jamais eu l'occasion de regarder Dragon Ball quand j'étais gamin, parce que j'avais pas le droit de regarder ces choses-là à la
si
télé.
C'est Golden Royal.
Quand j'étais enfant, ce genre de choses. Donc, j'ai raté le train. Ouais. Mais c'est une œuvre qui m'a toujours interpellé, qui m'a toujours fait envie, et que j'ai jamais pris le temps trop de lancer, mais que je ferai un jour, c'est sûr, parce que c'est tellement séminal pour beaucoup de monde que déjà ça me fait un peu mal de pas avoir les refs.
Oui.
Aussi. Mais ça me fait vraiment envie de regarder ça, quoi. Et de lire ça. Donc honnêtement, un de ces quatre, je m'y mettrais, c'est sûr.
Lilay, ça va très vite. Dragon Ball, ça se lit très bien et ça n'a pas vieilli, quoi.
Ouais.
En plus, t'aimes bien Naruto, t'aimes bien les mangas.
Tu vas
adorer. C'est un peu le daron du Shonen.
C'est vrai que il a aussi beaucoup inspiré de par son style la saga Dragon Quest aussi.
Bien sûr, c'est lui, les visuels, c'est lui.
Forcément.
Chrono Trigger, c'est lui aussi. D'ailleurs, pour la petite info, on m'a dit récemment, je savais pas qu'il y avait un Easter egg dans Chrono Trigger qui rend hommage à son fils en fait, dans lequel il dit regarde papa, il a travaillé dans un jeu vidéo, c'est une salle cachée de Chrono Trigger.
Ah, c'est stylé.
Il a son fils Sasuke, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Donc c'est un grand mangaka évidemment, et au-delà de ça, une grande personnalité, parce que même si on connaissait pas la personne, Dragon Ball a marqué même ceux qui n'ont jamais vu ou lu Dragon Ball.
Ça fait partie des choses que tout le monde connaît.
C'est la culture pop. On parle culture pop tous les lundis. Et c'est vraiment la culture populaire par excellence.
On pouvait pas ne pas en parler.
Non.
On va vous parler de Dune partie 3. Oui, puisque c'est pas parce qu'on n'a pas trop aimé la partie 1 et la partie 2 qu'on ne va pas vous parler de la partie 3. Et oui, d'ailleurs, allez voir notre critique qui est disponible sur YouTube et sur Dailymotion. Ça vous intéressera peut-être pour les gens qui se demandent pourquoi on n'a pas aimé. Vous aurez toutes les réponses là-dedans. Il y a 25 minutes de vidéo. C'est franchement assez rapide à écouter. Dune partie 2 cartonne. au box-office. Tu nous en parleras tout à l'heure dans ton point box-office, Adrien. Mm-hmm. Et on a des nouvelles sur une potentielle partie 3 qui, pour l'instant, n'est pas encore officialisée ni commandée. Mais le PDG de Legendary, qui fait partie des co-diffuseurs, des co-producteurs d'une partie 1 et d'une partie 3, nous donne un motif d'espoir. C'est Josh Groad, qui est donc le PDG du studio, qui nous dit « Nous sommes activement impliqués dans Dune partie 3 ». Voilà ce que je dirais pour le moment. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est commandé, mais qu'ils sont quand même assez fans de l'idée et qu'ils développent. Ils sont assez intéressés par développer une troisième partie, donc le Messie de Dune, le fameux, dont on vous avait déjà parlé dans notre guide sur la question Dune 2 avant la sortie. Denis Villeneuve s'intéresse beaucoup à clôturer une trilogie d'une partie 1, partie 2, partie 3 avec du coup le Messie de Dune de Frank Herbert qui devrait être son dernier film Dune dans cet univers en tout cas. Pour rappel, tout de même, c'est 500 millions de dollars évalués pour le seuil de rentabilité de Dune partie 2 et il pourrait, d'après les analystes à l'heure actuelle, empocher entre 600 et 700 millions de dollars à la fin de son run.
Comment il spoil mon point box office?
Ah, je suis désolé, je suis désolé, mais ça faisait partie de la news. Et ça a été surtout un gros risque de décaler la date de sortie de novembre à mars. Et au final, ça a plutôt bien marché parce que ils se sont permis d'avoir toutes leurs stars disponibles pour faire la promotion et battre leur appel. Et ça a très très bien marché, notamment sur le cœur de cible, qui est la cible privilégiée aux États-Unis, qui sont les 18-35 ans, qui sont ceux qui vont le plus au cinéma aux États-Unis. Et il y a eu une progression, en fait, sur ces deux cibles-là, entre Dune 1 et Dune 2, puisque Dune 1, 14% des 15-25 y allaient, alors contre 18% pour Dune 2, et les 26-35, c'était 20% pour Dune 1, et maintenant c'est 28% pour Dune 2. Donc on voit que la promotion a réussi à faire ce qu'elle voulait faire et c'est en partie pour ça que ça cartonne à ce point-là, mais tu nous donneras tous les chiffres tout à l'heure.
Tout à fait.
Voilà. Tout à fait. Un autre film qui a carrément marché en 2023, c'est Super Mario Bros, le film qui va avoir une suite.
Évidemment, on s'en doutait, hein, c'est ce qu'on s'était dit en off dès le générique de fin, qui d'ailleurs, spoiler, annonce une suite, hein, donc c'était très logique que ça se passe. Nintendo allait annoncer une suite au film Super Mario Bros. Le film, donc ça c'est en préparation, et la sortie est prévue pour le 3 avril 2026, avec les mêmes réalisateurs à la barre, Aaron Horvath et Michael Jelenic. Le premier film, donc tu l'as dit, est sorti en 2023, a été un vrai succès au box-office puisqu'il a dépassé le milliard de dollars d'or 7. Shigeru Miyamoto de Nintendo et Chris Millelandry du studio Illumination ont fait l'annonce du Super Mario Bros. Le film numéro 2 lors d'une vidéo diffusée à l'occasion de la journée Mario qui est célébrée chaque année le 10 mars. Et les réalisateurs ont déclaré être déjà occupés à concevoir de nouveaux décors et à storyboarder les scènes pour ce nouvel opus. Donc ils sont déjà en train de taffer. Pour rappel, le premier film racontait l'histoire des origines de Mario et de Luigi qui sont devenus célèbres grâce aux jeux vidéo. Et pour cette suite, Nintendo envisage d'élargir l'univers de Mario avec une histoire lumineuse et divertissante.
Voilà. C'est beau, ça.
On imagine que Yoshi peut-être sera de la partie.
Ah ouais.
Voilà, désolé du spoil, mais c'était le caméo de fin de Mario le spoil. Film. Désolé. Voilà, Yoshi, c'est quand même un gros morceau. Et je table aussi sur une sortie prochaine, mais pas tout de suite, d'un film à la Avengers en mode Super Smash Bros. Melee. Super Smash Bros. Plus tard, bien sûr, qui réunira les grandes figures de Nintendo. Mais ça, il faudra peut-être attendre d'autres films pour que ça se passe. Et c'est sûr et certain que si ça continue, on aura le droit.
Et on rappelle aussi que dans les cartons, un film Zelda est en préparation.
En live action, en live action. Réel, pas en dessin animé.
Exactement, ce qui nous avait beaucoup surpris au moment de l'annonce de cette news.
Exactement, on en reparlera d'ici quelques temps, c'est sûr.
Autre news qui ne surprendra pas grand monde, c'est le renouvellement pour 2 saisons d'Avatar, le dernier maître de l'air. Avatar, le dernier maître de l'air, qui fait un carton sur Netflix avec de très jolis chiffres de visionnage sur les 11 premiers jours. Ils ont réalisé 41,1 millions de vues dans le monde. On s'imagine évidemment que ça continue sur les mêmes tendances, puisque Netflix a annoncé, du coup, c'est 15 jours après la sortie de l'intégralité de la saison 1, qu'il n'y aurait pas une, mais 2 saisons de suite pour ce show Avatar, le dernier maître de l'air, qui est donc adapté de la série animée du même nom. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une mais deux saisons, et donc que ça devrait a priori adapter les deux dernières saisons du show original animé. Et pourquoi annoncer les deux en même temps? Bah, ça permettra sans doute de les tourner à peu près en même temps, ce qui permettra de limiter l'effet un peu bizarre des enfants acteurs qui vieillissent trop par rapport à leur personnage. On sait que c'est un problème qu'à Stranger Things. Mm-hmm. Ça sera moins le problème avec Avatar The Last Airbender, encore qu'il y aura un gap forcément entre la saison 1 et la saison 2. Entre temps, chaque acteur a pris 3 ans. Donc, et sur certains, ça se voit quand même beaucoup. Oui. Mais en tout cas, on imagine que la série s'arrêtera au bout de 3 saisons, comme le dessin animé originel. Et derrière, si ça cartonne toujours, Netflix va probablement, on l'imagine, commander La Légende de Korra, qui est la suite 100 ans plus tard, oui, dans cet univers.
Oui, oui, bah c'est pas déconnant, mais c'est vrai que c'est, enfin, c'est pas déconnant, et c'est assez étonnant quand même que ça marche mieux que One Piece. Je pensais pas qu'Avatar performerait autant, voire mieux que One Piece, qui pour moi était plus attendu peut-être qu'une adaptation live action.
La grande question, alors déjà les États-Unis adorent Avatar, le dernier maître de l'air, et la grande question c'est aussi est-ce que ça va perdurer sur le long terme, et ça c'est toujours une question qui se pose pour les originaux Netflix, et qui est une donnée extrêmement importante pour les analystes internes chez Netflix. Donc ça, a priori, la réponse a été donnée et est plutôt positive.
Ouais. Bon, c'est... Moi, j'ai toujours pas regardé, hein, donc je peux pas juger.
Non, mais je vous en parle à la fin de cette émission, dans la section reco.
Eh ben, on se garde ça pour tout à l'heure.
Exactement. On en avait parlé à une époque en reco, de la saison 1 et la saison 2. Mm-hmm. C'est Upload, la série Prime Video, qui s'offre une saison 4.
Ouais, qui sera la dernière. Donc Prime Video a renouvelé la série Upload pour une 4e et dernière saison. Mmh. C'est une comédie de Greg Daniels. Greg Daniels, qui est lui responsable du remake de The Office US. À la base, c'est Ricky Gervais en Angleterre qui avait lancé The Office. Greg Daniels qui avait aussi chapeauté Parks and Recreation. Donc c'est un grand nom de la comédie. Upload qui est une très bonne comédie dystopique, en fait, dans laquelle on est plongé dans un futur technologique où les gens peuvent être téléchargés dans une réalité virtuelle après leur mort. Dès la première saison, en fait, on suit une personne téléchargée dans un hôtel de luxe, vraiment où il peut juste claquer les doigts et dire « bah là, je veux être habillé en smoking. Ce soir, je veux avoir les plus belles femmes à mes pieds. Je veux manger le meilleur foie gras du monde. »
Le métavers.
C'est le métavers, en fait, c'est vraiment ça. Et ça nous permet, en fait, de critiquer notre société de consommation. Ça permet de critiquer notamment notre addiction aux réseaux sociaux, le fait qu'on veuille tout de suite en instantané, etc. C'est une bonne série, c'est pas une incroyable série, mais c'est vrai que les deux premières étaient super. Là, la troisième qui a été diffusée en novembre dernier, je trouve qu'elle est un peu en régime tranquille et qu'ils ont plus beaucoup de choses à dire, donc c'est un peu dommage. Et en plus, il y a beaucoup plus de phases dans le monde réel que dans le monde virtuel, donc c'est un peu compliqué. Et la quatrième, c'est pas plus mal que ça s'arrête avec la quatrième. Ouais. J'espère qu'ils partiront avec quelque chose d'assez explosif, mais plus on regarde la série, moins on apprécie aussi. Donc c'est un peu compliqué, ce genre de série où ça monte pas en puissance, mais c'est plus intéressant.
Ouais. Le concept était fort, mais au final, ils ont moins de choses à dire que ce qu'on croyait.
Exactement, et c'est avec Robbie Amell, frère de, ou cousin, je sais plus, de Steven,
je crois que c'est son frère.
Son frère, hein, Steven Amell, qui jouait Green Arrow, merci. C'est un archer aussi, Green Arrow, dans la série Arrow, justement, divisé sur la CW il y a quelques années. Et très bon acteur, je trouve, Robbie Amell. Beau gosse, mais qui se prend pas la tête à la Chris Hemsworth, un peu très sympa. Donc regardez Upload si vous avez l'occasion, c'est pas une mauvaise série, c'est diffusé sur Prime Video, et les trois premières saisons sont dispo en ce moment sur la plateforme.
Let's go. En ce moment, dispo et en diffusion sur Disney Plus en France et sur Hulu aux États-Unis via FX, c'est Shogun, la saison 1, qui en est à son épisode 4, hein, d'ici la diffusion de cet épisode en podcast. Shogun qui pose évidemment la question de son succès. Qu'est-ce qu'on fait avec un succès aussi retentissant critique, puisqu'on est toujours, je crois, à 99% sur Rotten Tomatoes, et a priori, ça cartonne aussi en termes de vues, de ce qu'on a vu sur les deux premiers épisodes qui ont été diffusés en même temps. Est-ce qu'on aura une saison 2? Eh bien, a priori, pas des masses. C'est le Hollywood Reporter qui a interviewé les co-créateurs Justin Marks et Rachel Kondo, qui se trouvent être scénaristes, co-scénaristes, co-showrunners, co-créateurs, mais aussi mari et femme. Et oui, c'est un petit peu le carnet rose, l'information carnet rose. et Justin Marx qui répond, on a emmené l'histoire jusqu'à la fin du livre et on a mis un point final à la fin de la phrase. On adore comme le livre se termine. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu le faire. Et on a terminé exactement à ce moment-là. Il faut savoir qu'eux, ils travaillent sur cette adaptation depuis 2018. Ouais. Et cette série, qui est en fait un remake d'une série de 1980, était dans les cartons depuis 2014. Donc ça a été super long en temps de gestation. Ça a été aussi produit post-Covid. Ça a été évidemment très compliqué. Alors, on nous explique que pendant 11 mois, ils ont travaillé sur la préparation et sur une espèce de bible de ce qu'était que le Japon, ce que c'était que le Japon féodal. Et que donc ils nous disent que tout ça, ça pourrait être réutilisé éventuellement si quelqu'un s'intéressait à faire une autre série sur le Japon féodal, mais que eux, a priori, la saison 2 de Shogun, ils la feront pas parce que bah il y a pas ils de matériaux. Ouais. Ils ont fini avec le bouquin de 1000 pages s'arrête là où ils ont terminé les 10 épisodes de Shogun, et donc qui n'en feront pas d'autres. Mais ça laisse pour autant une possibilité de s'intéresser quand même à cette période et faire potentiellement une autre adaptation d'un autre bouquin. Pour
du même, alors, du même auteur, on est d'accord, parce qu'il a écrit beaucoup de bouquins sur le Japon.
Ouais.
Je me suis renseigné, mais de très très loin. J'ai vu que Shogun, c'est l'un de ses plus grands succès, mais je sais qu'il a écrit au moins une dizaine de bouquins sur le Japon féodal, sur justement cette période ultra intéressante. Et bon, bref, ça on verra, et c'est très bien, je trouve, cette décision de finir. Ouais. C'est une mini-série, hein, finalement, c'est même pas une saison 1, en fait, on va appeler ça une mini-série. Quoi.
Alors, ils nous l'ont annoncé quand même comme une série limitée. Ce qui, dans le jargon, est quand même autre chose qu'une mini-série.
C'est vrai qu'ils n'ont pas annoncé comme une mini-série, ouais.
C'est ça. À une époque, on nous disait mini-série, c'est vraiment terminé, il n'y aura rien d'autre. Et maintenant, c'est plutôt série limitée pour nous dire que si ça marche, il y a peut-être une saison 2. Mais en réalité, ils ont adapté tout le matériau.
Ouais, ok. Et au-delà de ça, je trouve que c'est très bien que ce soit une série qui mette en avant justement des Japonais vraiment japonais. Et Hiroyuki Sanada, hein, c'est ça l'acteur principal, qui lui voulait absolument faire une série où le peuple japonais est représenté de la meilleure des façons. Donc il voulait des acteurs japonais, des actrices japonaises. Et même si c'est tourné en grande partie, dans mes souvenirs aussi, aux États-Unis, à Vancouver, au Canada, des pays justement anglophones, ça n'empêche qu'il y a un respect, tu le sens, de la culture japonaise, et c'est super. Et ça m'étonne d'autant plus que les Américains soient extrêmement réceptif, alors qu'en ayant regardé les deux épisodes de Shogun, faut que je continue, c'est les trois quarts du temps en japonais sous-titré anglais ou français. Quoi. On sait que les Américains sont difficiles là-dessus.
Chose à laquelle les Américains sont généralement très peu réceptifs.
Voilà, donc franchement, tant mieux. Super. Et si ça peut permettre à d'autres séries de se développer dans le même genre, dans le même sens, c'est génial. Quoi.
C'est potentiellement une très bonne nouvelle aussi pour les acteurs japonais qui pourraient aussi apprendre un petit peu plus à s'exporter de par le monde, puisqu'on sait que les acteurs japonais, bon, il y en a quelques-uns évidemment, hein,
bien sûr.
C'est de l'ordre d'une poignée en réalité, qui s'exportent à l'international. Ben, Hiroyuki Sanada en est un, Toshiro Mifune à l'époque du précédent Shogun en était un autre, mais c'est plus compliqué pour certains autres, et cette série-là peut permettre aussi à ces acteurs d'exploser un petit peu plus sur la scène mondiale.
Complètement, et pour finir là-dessus, pour l'anecdote, j'ai lu une interview de Hiroyuki Sanada dans Première, dans laquelle en fait il parle de son maître qui était Sonichiba, qui était un grand acteur et qui lui avait réussi à s'exporter à l'époque. Et en fait, le conseil que lui a donné Shiba à Sanada quand il était jeune, c'est exporte-toi en fait. Part du Japon et justement développe ton art ailleurs, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'on le voit partout maintenant dans plein de productions américaines, de Mortal Kombat à des séries comme Lost et aujourd'hui, tu vois, dans Shogun. En fait, le mec est multi-casquette, quoi. C'est super.
Impeccable. Je me rends compte que c'est un épisode très très série, hein, puisqu'on va enchaîner avec une information de casting sur la saison 2 de The Last of Us, qui est toujours prévue pour 2025.
Ouais, je vais aller assez vite et je vais essayer de pas trop spoiler, mais c'est, comme tu l'as dit, une annonce de casting. La distribution de la saison 2 de The Last of Us s'agrandit avec l'ajout d'acteurs comme Dani Ramirez, Ariella Barrer, Tati Gabriel et Spencer Lord. En fait, ces acteurs-là, je vais pas donner le nom de chacun, mais pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ça va tout de suite leur parler. Ils font partie du groupe d'un personnage qui s'appelle Abby. Voilà. Personnage quand même second rôle et second couteau, mais très important quand même dans l'histoire et dans la narration du deuxième jeu vidéo de Naughty Dog. Et j'ai très hâte de voir ce que peuvent proposer ces persos qui ont chacun, je pense, leur moment de bravoure et leur moment d'importance dans la saison 2.
C'est sûr.
Cette annonce aussi permet de voir que ça avance pas mal du côté de HBO, du côté de Craig Mazin qui fait de plus en plus d'annonces. On l'avait dit il n'y a pas si longtemps, Abby justement, qui est le personnage peut-être le plus important de cette saison 2, a été casté. Donc voilà, ça avance. On aura sûrement des infos sur le tournage d'ici quelques semaines, quelques mois. Et ne vous attendez pas à voir la saison 2 débarquer avant 2026, parce que le temps que ça se tourne,
2025.
Ça se monte... 2025, excusez-moi, le temps que ça se tourne, etc. Mais en tout cas, on a très hâte de voir la série, pour rappel, qui est basée sur le jeu vidéo du même nom, The Last of Us, qui suit les aventures de Joël et Ellie dans un monde post-apocalyptique. Les infectés ont repris le contrôle, mais l'humanité survit quand même toujours un peu, quoi. Voilà.
Avec... une moralité parfois un petit peu grise.
C'est quand même beaucoup, c'est le jeu qui, enfin c'est c'est le jeu et la série Zone de gris par excellence, quoi. C'est,
ah ouais, clairement.
C'est pas manichéen du tout.
Pour les gens qui apprécient ça, c'est
et
très bien.
Encore plus dans la saison 2 et dans The Last of Us partie 2.
Très
hâte de voir. Mon jeu favori de ces dernières années, quoi.
Autre saison 2 qu'on a très très hâte de voir sur HBO également, c'est House of the Dragon, la saison 2. Jusqu'ici, on avait un certain nombre d'informations, on avait déduit que la saison 2 sortirait en juin. Pourquoi ? Parce qu'on nous avait déjà dit que ça sortirait au début de l'été, puis on nous a dit que ça serait le trimestre prochain, et donc que ça pouvait pas être ni avril ni mai, et donc que ça serait juin. On a désormais la confirmation officielle. C'est dans une conférence de presse que JB Perrette, le chef de la division streaming et jeux de Warner Bros. Discovery, qui a confirmé l'information. Il a juste dit que ça arrivait en juin, sans date précise, puisque la date précise, elle va certainement arriver en même temps qu'un trailer. Étant donné que c'est juin, on peut s'imaginer que ce trailer, il arrivera courant du mois de mars, puisqu'en général, c'est plutôt 3 mois avant qu'on commence à vraiment augmenter la cadence côté promotion. Donc ça arrive très prochainement, en fait, l'air de rien.
Très très hâte, j'ai très très hâte, j'avais adoré la saison 1. Je sais que toi t'es fan absolu.
Ouais, complètement.
Et donc je pense qu'on a beaucoup de choses à dire d'ici quelques temps, là. Ça va être super.
Ça va être incroyable.
Rappelons que t'as une chaîne perso, on en parlera aussi peut-être sur un de ces quatre, mais t'as une chaîne toi perso sur YouTube où tu parles de ça en long, en large et en travers, et t'en parles très bien. On en fera sûrement la publicité quand la saison 2 sortira.
Le moment venu. Alors parlons un petit peu des Oscars, puisqu'il s'est passé énormément de choses hier, au moment où on enregistre ce podcast en direct sur Twitch. Et on a eu un petit peu l'information du palmarès, bien sûr, et la confirmation qu'Anatomie d'une chute allait être sacrée. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un petit point sur le palmarès avant qu'on passe sur les brèves très très bref.
Ouais, tout à fait. Non, comme tu l'as dit, c'était dans la nuit là, de dimanche à lundi, au moment où on enregistre le podcast. Je fais rapidement le palmarès. Comme on s'en doutait, Oppenheimer a quasiment tout raflé. Donc il a eu le meilleur film, le meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, le meilleur acteur pour Cillian Murphy, le meilleur second rôle masculin pour Robert Downey Jr., la meilleure musique originale pour Ludwig Göransson. Donc déjà voilà, on est pas mal. Tout ça c'est pour Oppenheimer, je crois qu'il en a eu 7 ou 8, 7 dans mes souvenirs, c'est quasiment sûr. Pour ce qui est de meilleur scénario original, Cocorico, Anatomie d'une chute de Justine Triet a décroché l'Oscar. On se doutait bien qu'il n'allait pas décrocher le meilleur film, hein. C'était très compliqué face à Oppenheimer, c'était un mastodonte Oppenheimer, mais ça fait plaisir que Justine Triet reparte avec une statuette méritée, parce que super, super scénario,
super film.
Incroyable film et super scénario. On a en meilleure actrice Emma Stone pour Pauvre créature de Yorgos Lanthimos. Extrêmement légitime, très mérité comme statuette aussi, film qui divise un peu, mais elle, sa performance est assez incroyable, donc c'était quasiment sûr aussi qu'elle reparte avec. Meilleur second rôle féminin, Davine Joy Randolph pour Winter Break, excellent film, excellent second rôle aussi dans le film d'Alexander Payne. Elle est super dans cette cantinière qui reste avec justement le prof et l'élève durant les vacances d'hiver dans ce lycée UP des États-Unis, voilà, alors qu'il ne se passe pas grand-chose et ils vont devoir apprendre à se connaître. Donc c'est excellent, excellent second rôle et c'est très mérité. Et je continue avec Meilleur film étranger pour la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, film anglais en fait, c'est l'Angleterre qui défendait le film, donc c'est pour ça qu'il n'était pas nommé en meilleur film aux Oscars. Et je termine par le meilleur film d'animation qui a été remporté par Le Garçon et le Héron d'Hayao Miyazaki des studios Ghibli, au nez et à la barbe, j'adore dire ça, au nez et à la barbe de Spider-Man Across the Spider-Verse, ouais, qui était donné, pas favori, mais qui pouvait repartir aussi avec une statuette. Ouais. Et Miyazaki sort de sa retraite, dit je vais faire un film, il fait son film, il a un succès public, il a un succès critique, il repart avec un Oscar et il dit allez vas-y je continue, il va continuer à faire d'autres films. Je trouve ça génial, donc increvable, et il continue à avoir du succès même à son âge. C'est son deuxième Oscar après Le Voyage de Chihiro.
Ah ouais.
Qui avait été évidemment lui aussi un succès public et un succès critique. Je rappelle quand même que je n'ai pas spécialement aimé le voyage Le Garçon et le Héron, mais
une critique est disponible sur les chaînes, n'hésitez pas à aller la voir.
Est-ce qu'on ne serait pas des professionnels du cinéma, on fait ça bien, voilà. Ouais, mais en tout cas voilà pour le palmarès des Oscars, on vous invite à aller regarder des sites spécialisés pour regarder l'intégralité. On vous a fait les plus grosses les plus grosses récompenses.
Très rapidement, sur les brèves, les infos que vous ne verrez pas dans cet épisode, mais que vous verrez quand même un tout petit poil. On voulait vous mentionner trois trailers qui sont sortis cette semaine avec Vice Versa 2, Le Problème à Trois Corps, la nouvelle série Netflix que personnellement, je comprends pas trop ce trailer. Et puis la série Fallout d'Amazon Prime Video qui, elle, pour le coup, me donne un peu plus envie. Je voulais parler aussi de très rapidement du film Watch Dogs qui refait parler de lui puisqu'il a casté sa star en la personne de Sophie Wilde, mais aussi son réalisateur qui n'est autre qu'un Français, Mathieu Turi, dont on vous avait déjà parlé l'an dernier puisqu'il sortait Gueule Noire, et il est en train de travailler sur l'adaptation en série de Plague Tale, Innocence. Donc voilà, ça marche très bien pour lui en tout cas, donc très cool. Le remake de Twilight nous fait un petit peu parler de lui puisqu'on a appris cette semaine que ce serait une série animée désormais, pas une série live action, ce qui est une bonne nouvelle je pense. Dakota Johnson est un petit peu en délicatesse ces derniers jours de ce qu'on apprend, puisque Sony n'apprécie pas du tout qu'elle prenne la parole pour un peu défoncer son film Madame Web dont elle est la star, qu'a priori c'est ce que nous dit le Daily Mail, que chez Sony on n'apprécie pas du tout ce genre de prise de position. Steven Yeun nous parle de la saison 3 d'Invincible, dont la saison 2 va se terminer là cette semaine. La saison 3 est d'ores et déjà dans les cartons, nous explique-t-il, et que l'objectif c'est surtout de faire en sorte que ça arrive plus vite que la saison 2 n'était arrivée. Il y avait eu un gros gap entre la saison 1 et la saison 2, et a priori on essaie de travailler pour que ça soit plus rapide entre la saison 2 et la saison 3. Enfin, Karen Gillan qui répète à nouveau qu'elle aimerait beaucoup jouer Poison Ivy dans le nouveau DC Universe, même une Poison Ivy qui serait potentiellement en couple avec Harley Quinn. Tout ça, évidemment, c'est un vœu pieux, mais on sait que Karen Gillan est très proche de James Gunn, donc ça pourrait potentiellement se faire. Voilà pour les informations très très brèves de la semaine.
Rapid fire. Et voilà, c'est fini pour le récap. Pour ne rien rater des dernières actus pop culture, il vous suffit simplement de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, et on est aussi présent sur YouTube et Dailymotion. On vous dit à très bientôt. Salut tout le monde.